Voilà. On a posé plusieurs questions ce soir. En tout cas, l'une d'entre elles, elle est pourquoi le mois de Hadar, et surtout Purim, c'est la fête de la Simra, la fête de la joie. Pourquoi pas la fête de, pourquoi ce ne serait pas le mois de Nissan? Le mois de Nissan, finalement, c'est un mois dans lequel il y a Pessah, et c'est un événement qui est a priori très joyeux. La naissance du Yam Israël, tous les miracles et compagnie. Alors, bien sûr, on va essayer de répondre à cela ce soir. En tout cas, on va essayer surtout d'expliquer quelle est l'essence, quel est le but de chaque mitzvah qui compose Purim. Il y a quatre mitzvot essentielles. D'accord, il y a la Kriyat HaMegillah, la lecture de la Megillah. La Megillah, vous savez ce que c'est? La Megillah, donc, c'est l'histoire de Purim. Ensuite, il y a les deux mitzvot de Matanot Laevionim, ainsi que Mishloach Manot. D'accord? Donc, ce sont des cadeaux qu'on fait aux pauvres et aux amis. Et la dernière mitzvah, c'est le fameux Mishté, la Seuda de Purim. D'accord? On va essayer de comprendre quel est le but de ces mitzvot. Non, il y a une notion qu'on dit souvent à Purim, et cette notion, elle est Vena Afor Ou. Il y a une inyan de Ipur, inversé, bouleversé. Purim, c'est la même racine que Ipur, inversé. On va essayer de comprendre quelle est cette notion de inversé, Vena Afor Ou. On va essayer de comprendre cela, d'accord? C'est la même racine. Entre guillemets, d'ailleurs, une des questions, c'est pourquoi on appelle cette fête Purim. Alors, justement, on a dit, vu que c'est la même racine que Vena Afor Ou, alors, si on comprend quel est le sens de ce Vena Afor Ou, on comprendra pourquoi on appelle cette fête Purim. Bezrat Hashem. Alors, pour commencer, on va ramener deux histoires qui sont racontées à la dernière page de Makot. D'accord ? Il y a une histoire où il y a quatre Tanaïm. C'est donc Rabbi Raman Gamliel, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar Ben Azaria, ainsi que Rabbi Akiva. Ils se promenaient. Et puis Tom, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient une maison comme ça de Romains. Et ils entendent des voix, des cris de joie. Ils faisaient la fête. Ils entendaient de très loin. Et Raman Gamliel, Rabbi Yoshua et Rabbi Elazar Ben Azaria, ils se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, bien au contraire, se met à rigoler. Il était dans une joie. Les trois années, mais je veux dire, Rabbi Akiva, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on pleure, toi, tu rigoles. Qu'est-ce qui t'arrive? Rabbi Akiva leur répond, mais vous, pourquoi vous pleurez? Je ne comprends pas. Alors, il leur dit, je ne comprends pas. Eux, d'accord, ils font la fête. Ils ne font pas la volonté de la Kadosh Baruch Hu, ils font la fête. Et nous, ah, le Beth Amikdash a été détruit, c'est la ruine. Hachem, voilà, on est en galoute. Comment pourrions-nous rigoler? On doit forcément pleurer. C'est une peine. Les Goïm, d'accord, ils font la fête. Et nous, qu'on est les représentants de la Kadosh Baruch Hu, d'accord, on n'a pas la maison de la Kadosh Baruch Hu, forcément. Ça doit nous amener dans un état de tristesse. On pleure. Rabbi Akiva, je ne comprends pas. Mais justement, c'est la raison pour laquelle vous pleurez, c'est justement la raison pour laquelle je rigole. Pourquoi? Si déjà eux, qui font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ils ont droit à la sérénité et au bonheur, alors, Kol Sheken, a plus forte raison que les personnes comme nous qui respectons la volonté d'Akadosh Baruch Hu auront droit à cette sérénité et à ce bonheur. Donc c'est pour ça que je rigole. Deuxième histoire, pareil, c'est même Rabbanim se promène à Yerushalayim. Ils arrivent à Har HaTzufim. Har HaTzufim, donc, c'est une montagne depuis laquelle on peut voir le Har HaBayit, une montagne sur laquelle il y avait le Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, ils déchirent leurs habits. Vous savez qu'il y a une halakha, quand on va au Kotel, on doit déchirer les habits en signe de deuil. Donc, ils déchirent leurs habits. Et ils s'approchent, ils continuent à marcher. Et ils arrivent vraiment proches. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'à l'endroit où il y avait le Saint des Saints, un choual se promenait. Un choual, c'est un renard. Et elle se met à pleurer, encore une fois. Et Rabbi Akiva, encore une fois, se met à rigoler. Et les trois Tanaïm lui disent Rabbi Akiva, tu nous étonnes, non? Encore tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, mais je ne comprends pas, mais vous, pourquoi vous pleurez? Ils répondent, mais je ne comprends pas. À l'époque, il y avait écrit Hazar Akarev Yumat. Toute personne étrangère qui s'approche du Saint des Saints doit mourir. Il meurt. C'était un endroit qui est tellement saint, tellement la présence divine, elle est tellement évident, tellement elle est forte, qu'on ne pouvait pas s'approcher de cet endroit-là. Et regarde, maintenant, il y a un renard. C'est-à-dire que vraiment, c'est une catastrophe. Donc forcément, qu'on doit pleurer. Vous comprenez? Ben, Akiva dit, justement, c'est la raison pour laquelle vous pleurez. C'est justement pour cela que je rigole. Pourquoi? Parce que Uriah, il avait déjà, hein, au temps du premier temple, il avait prophétisé qu'un jour, le lieu sur lequel a été construit le Beth Amikdash sera labouré. Il sera méprisé, tout comme les autres champs. Labouré, il y aura des renards qui marcheront dessus. D'accord? Et Rabbi Akiva, il dit justement, vu que maintenant je vois un renard qui marche à ces endroits-là, d'accord, c'est le signe que la prophétie de Ouria a été réalisée. D'accord? Mais tant que je n'avais pas de signe comme quoi cette prophétie était vraie, je n'avais aucune chance de croire, en tout cas j'avais très peur que la prophétie de Zecharia, qui prétend qu'il y aura un autre Bektamidash qui sera reconstruit, va oui se réaliser. Maintenant que la première prophétie s'est réalisée, j'ai un signe comme quoi la prophétie de Zecharia va se réaliser. Donc je suis content. D'accord? Donc en quelque sorte, on voit quoi? On voit que dans la vie, on peut, quand on a un verre à moitié plein, on peut voir soit la moitié du verre vide, ou soit la moitié du verre plein. Mais Rabbi Akiva, il a fait plus que ça, Shalom. Il l'a vu carrément, il n'a pas vu la moitié du verre plein, il a vu le verre plein, tout court. D'accord? Voilà. Ça, c'est un petit peu le travail de Pourim. C'est ça. Toutes les fêtes, comme Pessah, Sukkot, d'accord, Hanouka, Rosh Hashana, Kippour, toutes les fêtes, en réalité, c'est quoi leur but? En réalité, elles permettent de créer un lien avec Kadosh Baruch Hu, un lien avec Hachem. D'accord? Pessah, c'est quoi? C'est la sortie d'Égypte. Hachem nous aide, il fait des Nissim, c'est extraordinaire. Hachem se dévoile à nous, il prouve l'amour qu'il a pour nous. Pareil, Sukkot, il nous protège de la Nana Kavod, les nuits ardentes, d'accord? Encore une fois, Rosh Hashanah, on proclame haut et fort la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Mais le problème, il est comme ça. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qu'on appelle Alma Deshikra, le monde du mensonge. Un monde dans lequel tout est mensonge. Dans le monde dans lequel on nous empêche de percevoir clairement l'amour d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Par exemple, vous savez, on a étudié les gens qui viennent à mon cours, qui ont, donc il y a des attributs de foi, des principes de foi. Et les deux premiers, c'est ils parlent de Yichud Hashem. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. En od milevado. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est géré par Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas y avoir quelque chose d'indépendant à Akadosh Baruch Hu. Tout est Akadosh Baruch Hu. Donc après, quand on est juif, d'accord, on devrait savoir qu'il n'y a pas de hasard. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Comme je le dis souvent, hein, quand on va à la Makolet, d'accord, on va acheter maintenant du lait, d'accord. Il s'avère qu'à la Makolet, maintenant, il y a 200 packs de lait, d'accord. 200 packs de lait. Et j'en choisis un. Je prends un pack de lait, d'accord. Et je me dis, a priori, qu'est-ce qui s'est passé? À Kadosh Baruch Hu, d'accord, il a mis 200 packs de lait pour la Shrouna, pour le quartier, d'accord. Et moi, par hasard, j'ai pris ce pack de lait. Ça n'existe pas, le hasard. Parce que le hasard, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est indépendant à Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, c'est bien l'impression que nous avons. Deuxième exemple, quand je respire maintenant, pourquoi je ne remercie pas Kadosh Baruch Hu? Comment ça se fait qu'on ne respire pas Kadosh Baruch Hu? Regardez, mettez la tête sous l'eau pendant une minute, moi j'arrive pas, mais c'est déjà trop, mettez-la moins une minute sous l'eau, d'accord? Vous allez sortir de l'eau, vous allez, oh, je peux respirer, c'est extraordinaire, l'air, quelle création! T'as presque envie de remercier Kadosh Baruch Hu à ce moment-là. Mais nous, pourtant, on ne remercie pas Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ce monde nous fait croire un mensonge. On a l'impression qu'à Kadosh Baruch Hu, d'accord, il sait que les humains ont besoin de respirer, donc il a mis une dose énorme d'oxygène dans ce monde, d'accord. Et maintenant, nous, on se partage l'air. Donc le litre d'oxygène que je viens de respirer là, comme ça, d'accord, c'est pas qu'Hachem a décidé que ce litre d'air, il doit maintenant aller directement dans le nez de Daniel. Pas du tout. C'est un hasard, on s'est partagé. D'accord. Et de ce fait, vu que c'est un hasard, on n'a pas cette envie de remercier Kadosh Baruch Hu. Si on savait pertinemment et clairement que chaque chose dépend d'Akadosh Baruch Hu, que même l'air que je viens de respirer maintenant, c'est Hachem qui vient de me le donner spécialement pour moi, j'aurais forcément envie de le remercier. Vous comprenez? Oui.
Pourquoi on ne le remercie pas alors?
Parce que c'est le monde qui nous pousse à croire un mensonge. On a l'impression que le monde est rempli d'air et nous on se partage l'air.
On fait une bracha sur le lait.
On fait une bracha sur le lait, mais sur la bracha sur le lait, comme on a vu mardi, d'accord, la bracha sur le lait, ça demande un effort, ça demande un temps d'arrêt pour réaliser que la pomme que je vais manger, c'est une pomme qu'Hachem m'a donnée personnellement, ça demande un effort. Pourquoi ça demande un effort? Pourquoi c'est pas naturel? Parce que ce monde nous fait croire un mensonge. D'accord, ça s'appelle Alma Deshikra. D'accord, donc c'est bien beau les fêtes juives, d'accord. On doit créer un lien avec Kadosh Baruch Hu, Pessah, Sukkot et compagnie, mais sauf ce monde nous empêche de créer ce lien. D'accord. La nature, le monde que je vais appeler la nature, c'est le monde matériel, d'accord. On va appeler ça la nature. La nature nous trompe. Et justement, le travail de Pourim, c'est de voir la nature autrement. On a déjà dit ça quelques jours. On va en inviter chez quelqu'un, d'accord. T'invites chez quelqu'un et tu mets sur la table une petite assiette de gâteau. Et Mekoumen Gato, il n'en met pas que un. Il n'en met pas que un, il en met plus, d'accord. Il en met, on va dire, une dizaine. D'accord. Il y a deux façons de voir les choses. Soit là, il en a mis 10, parce que voilà, il pensait m'en donner un à moi, mais vu qu'ils sont 9 de la maison, il en a un pour chacun. D'accord. Ou non. Il en a mis un pour moi, et les 9, alors qu'il a mis autour, c'est pour mettre à l'aise. D'accord. C'est ça. Pour rime, c'est ça. C'est justement considérer l'oxygène que je respire. D'accord. Tout comme je pourrais considérer les gâteaux qu'il a mis en plus. D'accord. L'oxygène, il a mis des milliards. C'est vrai pour les autres, c'est vrai aussi. Mais l'air que je viens de respirer là, il a été mis là pour moi. Ça, c'est pour une. D'accord. Nafor ou. On inverse. Nafor ou pour une, c'est nafor, comme on a dit. Nafor, on inverse. On inverse quoi? Notre perception des choses. C'est ça pour une. On doit inverser notre perception de voir les choses. Jusqu'à présent, tu pensais qu'il y avait du hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est la Kadosh Baruch. Et ça, c'est le but de la Megillah. Mais la Megillah, c'est quoi? Megillah, c'est Mégalé. Mégalé, ça vient dévoiler. La Megillah dévoile quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dévoile? Qu'est-ce qu'elle dévoile? Elle dévoile quoi, hein? Elle dévoile justement que jusqu'à présent, on pensait que la nature, que ce monde matériel, en quelque sorte, est une barrière qui nous empêche de percevoir Akadosh Baruch Hu, qui nous empêche de percevoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. La Megillah, elle vient nous dévoiler qu'au contraire, que la nature n'est pas une barrière, mais bien au contraire un moyen pour percevoir l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Si ce n'est pas le meilleur moyen. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est le meilleur moyen. On va expliquer comment. D'accord? La Megillah, vous pourrez voir que la Megillah, elle n'a rien de surprenant. Il n'y a même pas Akadosh Baruch Hu dans la Megillah. On ne parle pas d'Hachem. Tout historien, d'accord, qui va essayer d'étudier l'histoire de Purim, il dira, voilà, bon, c'est une histoire. Bon, Aman, il a fait, malheureusement, il a employé de mauvaises stratégies, d'accord. Il y a eu beaucoup de chance. Bon, Hachem, le peuple juif s'en est sorti. Il n'y a pas de Dieu. Dans la Megillah, il n'y a pas le nom de Dieu, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que justement, Purim, comme on a dit, Purim, c'est pas une fête qui est surnaturelle comme Pessah, c'est pas une fête qui est surnaturelle comme Sukkot, c'est une fête qui est dans la nature, qui est dans ce monde. Donc Hachem, il est effacé. Parce que tout le but, justement, c'est de comprendre que ce monde, il est justement un moyen de percevoir Kadosh Baruch Hu. Si on avait mis le nom de Dieu dans la Megillah, on aurait dit ça, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Hachem nous a aidé, c'est surnaturel, c'est un Nes. Non. Parce que Purim nous demande, en lisant cette histoire, d'accord, il y a deux façons de voir les choses. Quelqu'un, il voit un cœur. Quelqu'un, il voit un cœur. Je crois que chez Rav Char, une fois, il a dû se faire opérer du cœur, il me semble. Et il a dit au chirurgien, il a dit, vous savez, vous avez une chance extraordinaire. Alors, il dit quoi? Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Vous vous rendez compte, tous les jours, vous avez la possibilité, d'accord, de voir des cœurs. Il a dit, non, peut-être que le rabbin, peut-être qu'il a un problème, peut-être qu'il faudrait peut-être le soigner du cerveau. Mais il dit, mais vous ne comprenez pas ce que je dis là. Un cœur, vous réalisez ce que c'est un cœur? C'est une pompe, qu'est-ce qu'il y a? Mais un cœur! D'accord. Le monde, tu peux le voir de deux façons. Il y en a qui voient des cœurs et pensent que c'est une pompe. D'accord. Il y en a qui pensent, ils voient des cœurs, ils voient maintenant l'ingéniosité de la création. D'accord. Les gens qui lancent des articles de science, d'accord, pour prouver que Hachem n'existe pas. Il y en a qui lisent la science, au contraire, pour prouver que c'est évident que Kadosh Baruch Hu existe. D'accord. Hachem, il a fait un S. Pour qu'on ait le libre arbitre. D'accord. Pour qu'on ait le libre arbitre, Hachem, il a fait en sorte que ce monde nous trompe. Parce que si c'était si évident, enfin, c'est extraordinaire. Nous, on a l'impression que c'est un S de pouvoir réaliser qu'il y a un Dieu. D'accord. Là, on dit l'inverse. On dit l'inverse. On dit, Akadosh Baruch Hu a pris dans ce monde, c'est clair. Si tu vois maintenant ce magnétophone, tu vois le verre d'eau, c'est évident que Dieu existe. C'est tellement pas chouette. Mais le problème, c'est que c'est tellement évident qu'on n'aurait plus le choix. On aurait été obligé de faire la volonté de Akadosh Baruch Hu. Donc, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Il a fait un S. Il nous a rendu aveugles. Je vois l'eau, bon, ça va, c'est une création, c'est la théorie d'évolution. Je vois monsieur, je vois c'est la théorie d'évolution, bon, Hachem. D'accord. C'est un S, d'accord. D'accord. Donc la Megillah, c'est exactement ça. Tu peux l'avoir de deux façons. C'est soit tout un tas de circonstances et de chances, de hasard qui a fait que le peuple Israël s'en est bien sorti, d'accord. Ou non. Nous, on est juifs, on sait qu'il y a le Yehoud. Il n'y a que Dieu, il n'y a pas de hasard. Tout est géré par Kadosh Baruch Hu. Donc quand on lit la Megillah, on sait pertinemment que tout est géré par Kadosh Baruch Hu. Prenez par exemple, la Megillah, comment elle s'est dit? Comment elle dit? Que Shevet Ameler Achashverosh, Al-Kise Malchuto Asher Beshanabira. Lorsque le roi Achashverosh est assis sur son trône, qui était à Shushan Abira. Premier, ça c'est le deuxième verset, Megillah, d'accord? Pourquoi à Shushan? Tout le monde pose la question, pourquoi Shushan? A priori, il aurait dû être à Babel, tous les rois étaient à Babel. Surtout que lui, en plus, c'est même pas un Perse, il est de Babylone. Pourquoi se fait? Comment c'est qu'il est allé en Perse à Shushan? Comment ça se fait? C'est un pire. A priori, bon, on ne comprend pas. D'accord ? On peut dire, bon, c'est un hasard. Le Midrash explique, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Le Midrash explique que. Et vous connaissez l'histoire de Shlomo. Shlomo, il avait un trône qui était magnifique, qu'il a conçu lui-même, un trône qui était extraordinaire, d'accord, avec une ingéniosité parfaite. Il y avait même des animaux dessus. Il avait fait des lions, il y avait plein de bestioles dessus, d'accord, qui étaient animées. Et toute personne qui n'était pas apte à monter sur le trône de Shlomo, il se faisait manger par les lions. Et le roi, Achashverosh, il voulait le même trône. Mais il savait très bien qu'il ne pouvait pas accéder à ce trône-là. Qu'est-ce qu'il a fait donc ? Il a fait appel des artisans qui étaient capables de construire ce même trône. Mais quel artisan était capable de construire un trône aussi parfait à cette époque-là ? Les artisans de Shushan. Artisans de Shushan. Donc ils ont fait le trône là-bas, d'accord ? Ils ont fait le trône. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et ils ont voulu le ramener à Babel. Trop lourd. Une galère. Tu te rends compte la distance qu'il y a ? Amener un trône pareil, trop lourd. Donc bah, c'est pas grave. On va déplacer la royauté à Shushan. Pourquoi Shushan ? Pourquoi Shushan ? Nous, on pourrait avoir l'impression, tout simplement, problème de poids, problème technique. Midrash dit non, ça n'a rien à voir. Parce que le tzaddik de la génération, c'était qui à cette époque-là ? Mordechai. Il habitait où ? À Shushan. D'accord ? À Shushan. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, tout est géré par Kadosh Baruch Hu. On ne va pas faire venir Mordechai chez le Racha, on va faire venir le Racha chez le tzaddik. D'accord ? C'est tout un tas d'exemples de la Megillah. La potence. Lui, il espère qu'il va tuer Mordechai. C'est qui se fait tuer là-dedans ? Et lui, pourquoi ? Hachem, il a mis la tête de main terre, va construire une potence. Même toi-même, tu es pendu là-dessus. Mais la Megillah, il faut la lire. D'accord ? Les gens qui n'ont pas lu, je vous propose au moins de la lire. C'est très intéressant, extraordinaire. Et celui qui sait maintenant que tout est géré par Kadosh Baruch Hu, il pourra trouver, justement, hein, tous les tenants et aboutissants que Kadosh Baruch Hu, il a géré depuis le début. D'accord ? Donc Pourim, c'est ça. Pourim, c'est la Megillah. La Megillah ne dévoile, justement, que Kadosh Baruch Hu, il gère tout. Hachem nous aime. Hachem, il est partout. Hachem. Il n'y a rien d'indépendant à Kadosh Baruch Hu. Tout est géré par Hachem. Tout est géré par Hachem. Cette nature qu'on croyait une barrière pour percevoir Kadosh Baruch Hu, bien au contraire, cette nature, elle est un moyen pour voir Kadosh Baruch Hu, pour voir la main d'Hachem. Vous comprenez ou pas ? Et donc, après, quand on lit cette Megillah, hein, qu'on a fait ce travail à Purim, de la Kadosh Megillah, et qu'on réalise à quel point on est dans le monde du mensonge, qu'on réalise à quel point Hachem, il nous aime, d'accord ? L'air. On a dit l'autre jour, les pommes, quand tu fais une bracha sur une pomme, mais faire une bracha correctement, c'est quoi une bracha correctement ? D'accord ? La pomme, tu peux la considérer de deux façons. D'accord ? Soit maintenant comme un moyen pour remplir mon ventre, d'accord ? C'est-à-dire qu'en réalité, je vais faire une bracha pour pouvoir manger. Au contraire, ce qu'il faudrait faire, c'est manger pour pouvoir faire une bracha. Considérer cette pomme comme un moyen de me lier à Kadosh Baruch Hu. Donc on voit encore une fois, la matière, elle est oui un moyen pour se lier à Kadosh Baruch Hu. C'est là ou pas ? Ouais. C'est ça là, c'est extraordinaire, il y a tellement de choses. La nature, réfléchissez.
Enfin, comment se mettre en tête qu'on peut se penser que le moyen pour être HM, c'est faire la bracha.
Pas faire la bracha.
Qu'on a cette pomme.
La bracha, c'est un moyen d'exprimer. Mais avant de faire la bracha, déjà réalise. Par exemple, tu as soif. Ouais, tu bois de l'eau, c'est extraordinaire. Réfléchis un peu, mais c'est extraordinaire. Quelqu'un qui n'a pas d'eau, qui est dans le désert, il boit un verre d'eau, mais. Et remercier Hachem, mais pourquoi nous ne remercie pas ? Pourquoi nous ne remercie pas ? Réfléchis un petit peu, tout ce qu'Hachem te donne. Les brachot qu'on fait tous les matins. Tous les matins, c'est quoi ? On veut voir. Bien voir, c'est un naissance extraordinaire. Hachem, il nous aime, c'est une recette vraiment magnifique. Magnifique, d'une naissance, la conception. Je sais pas, l'enfant comme il évolue dans le ventre de sa mère. C'est un miracle, il y a tellement de miracles. Hachem nous aime. Maintenant, pour Rim, le travail, c'est réaliser à quel point Hachem nous aime et qu'on peut percevoir cela dans ce monde. Et si tu arrives réellement, grâce à la Megillah, à voir à quel point Hachem nous aime, automatiquement, ça réveille quoi ? Ça réveille toi un amour pour Kadosh Baruch Hu. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu es amoureux de ta femme, tu l'aimes ta femme. C'est tout ? Tu aimes ta femme, tu restes là ? Pas du tout. Automatiquement, tu as une envie de faire quoi ? De concrétiser cet amour. Comment ? Tu offres des cadeaux, d'accord ? On va offrir des cadeaux à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi ces cadeaux ? Les deux mitzvot qu'on va faire juste après la Megillah. Matanot le'Evyonim. Et Mishloach Manot, c'est quoi ces deux cadeaux ? Il y a deux sortes de cadeaux. Quand tu aimes ta femme, tu veux faire des cadeaux à ta femme. Tu aimes ton enfant, tu veux faire un cadeau à ta femme. Et à ton enfant, c'est pas que maintenant tu le donnes à ton fils. Même toi-même, tu te donnes à toi-même en offrant le cadeau à ton fils. Mais comment ? Il y a deux sortes de cadeaux. Tu as un cadeau qui vient combler un manque. Par exemple, je vois que mon ami, il lui manque un stylo. D'accord ? Je vais lui acheter un stylo. C'est un cadeau. Tiens, un cadeau. D'accord ? Je viens combler un manque. Deuxième genre de cadeau, je ne viens pas combler un manque. Je viens seulement exprimer l'amour que j'ai pour toi. Je t'offre des fleurs. Un fleur, ça ne vient pas combler un manque. Ça vient seulement exprimer l'amour que j'ai pour toi. D'accord ? Vous voyez ou pas ? Ça, ce sont les deux mitzvot qu'on fait après la Megillah. Une fois qu'on a réveillé cet amour qui est en nous pour HaKadosh Baruch Hu, tellement on est impressionné à quel point il nous aime, automatiquement, on peut rester indifférent, on t'aime, donc on veut t'offrir des cadeaux. Mais comment on fait pour t'offrir des cadeaux? On peut pas, toi, concrètement, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? Un père, il préfère qu'on offre des cadeaux à ses enfants plutôt qu'à lui-même. Tu offres un cadeau à mon fils? Je suis épaté, mon fils, il est heureux, il est content, mais moi, le père, il est... Ah, on offre des cadeaux aux enfants d'HaKadosh Baruch Hu. À qui? Aux pauvres. Ça, c'est Matanot Levionim. Ou même aux riches. Ça, c'est Mishloach Manot. Maintenant, on comprend bien. Vu que les deux cadeaux sont différents, Mishloach Manot, ça vient seulement exprimer l'amour que j'ai pour toi. Je ne peux en offrir qu'un. Minadid, d'après la Lacha, on n'offre qu'un. Mishloach Manot. Si maintenant, j'offre des fleurs à ma femme. D'accord? J'offre des fleurs à ma femme. Ma femme est toute contente. Et maintenant, je sors un deuxième bouquet de fleurs et je l'offre à ma mère. J'ai tout cassé. Ce cadeau que je t'offre maintenant, il est que pour toi. Exclusivement pour toi, mais il n'a pas pour un autre. Donc, d'après la Lacha, c'est un Mishloach Manot. Un seul. D'apprendre maintenant notre évonyme, c'est deux. Pourquoi deux? Parce que tout son but, c'est quoi? C'est de combler un manque. D'accord? Donc, plus il y aura de pauvres, plus je pourrai combler des manques, mieux ce sera. Donc, d'après la Lacha, c'est deux minimum. Vous comprenez? Ouais. Bon. Dernière mitzvah, la Seouda. La Seouda. Alors la Seouda, hein, pour les gens qui étaient à mon cours mardi, ce sera un petit peu de la répétition, mais c'est quand même intéressant. La Seouda, c'est quoi la Seouda? La Seouda, hein, donc, on va manger. Ouais. C'est quand même étonnant, on va faire une mitzvah, on mange. Bon, hier à Frima, hein, il a dit un super cours, d'accord, il a dit qu'étant donné que les décrets sur Am Israël provenaient justement d'une faute qu'ont fait les Béné Israël lors d'une Seouda, lors d'un repas, on doit réparer cela par un repas. D'accord? C'était très bien expliqué hier, donc on ne va pas revenir là-dessus, mais une autre façon de comprendre. C'est bien beau de percevoir HaKadosh Baruch Hu, de le comprendre, de comprendre l'amour d'HaKadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, ça reste très souvent une philosophie. C'est abstrait, c'est une pensée, c'est une idée. Mais concrètement, HaKadosh Baruch Hu, est-ce que je le perçois réellement? Pas évident. Le Hari, d'ailleurs, dit qu'un des tikkun les plus grands du peuple juif doit passer par l'alimentation. Pourquoi par l'alimentation? Si tu arrives à intégrer HaKadosh Baruch Hu, même dans ta vie matérielle, tu as tout gagné. Hachem, il ne faut pas que ce soit seulement une philosophie. Il ne faut pas seulement que ce soit une idée, quelque chose d'abstrait, il faut quelque chose de concret. Et qu'est-ce qu'on comprend le mieux dans la vie? Un Dvar Torah que je t'explique maintenant? Ça, tu peux le comprendre comme ça, tu peux le comprendre comme ça. Ça reste abstrait. Ça reste un... je vais t'expliquer maintenant le goût d'une pomme. Tu vas peut-être, c'est d'ailleurs, ça va pas être évident à expliquer, mais si j'y arrive, d'accord, tu vas te faire une idée. C'est sucré, un petit peu amer, c'est un petit peu ci, un petit peu ça, d'accord. Maintenant, si tu goûtes la pomme, pas besoin de t'expliquer, c'est direct. T'as compris. Si maintenant tu comprends HaKadosh Baruch Hu, même dans la matière, même dans l'alimentation, dans les sens, alors là, t'as tout gagné. Hachem, il est là. Tu l'as compris. Hachem, il est même là, il est même présent. L'amour, je le ressens. Je le ressens avec mes sens. Il fait partie de ma vie. Ça, c'est la Seouda. La Seouda, en quelque sorte, c'est quoi? C'est que maintenant, quand je vais manger, d'accord, je dois maintenant marquer un temps d'arrêt, réfléchir et me dire à quel point HaKadosh Baruch Hu est impressionnant. Quand je mange la pomme, c'est extraordinaire, c'est bon. C'est quoi, c'est bon? Le fait que ce soit bon, ça peut être, oui, un moyen de réaliser à quel point Hachem nous aime. D'ailleurs, on dit comme ça que l'alimentation, quand on mange le goût de la nourriture, c'est ça ressemble, bien sûr, bien avant, ça n'a rien à voir, mais ça ressemble un petit peu au kiff qu'on peut voir en se rapprochant de la Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait Avdala, vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi on fait kiddush sur un. On fait pas un kiddush sur un Tehilim? Pourquoi on fait kiddush sur Tehilim? C'est étonnant. Sur un Tehilim. Faisons un kiddush sur un Tehilim, c'est mieux que sur un verre de vin. On boit sur un verre de vin. Sur un verre de vin. On fait un kiddush sur un verre de vin. C'est quelque chose de. Qu'on ressent avec le goût, quelque chose qu'on comprend. D'accord? Maintenant que j'ai goûté un goût du vin, c'est extraordinaire, automatiquement ça doit éveiller à moi un amour pour HaKadosh Baruch Hu. Je fais un super kiddush. Je comprends HaKadosh Baruch Hu avec mes sens. Vous comprenez ou pas?
Alors le fait de goûter, on va comprendre qu'après on redevient dans le rôle, parce que le principe un peu de la Dala, c'est mettre une coupure entre Shabbat et le rôle, non?
Non, le principe, c'est le sens du moussard. D'après le pshat, c'est pas ça du tout. Hein. D'après le pshat, c'est pas ça du tout. Après le moussard, d'après le balai moussard, ce que j'explique en Finkus, c'est que le fait que tu aies goûté ce vin, qui est quelque chose que tu ressens comme quelque chose de bon, ça doit éveiller en toi automatiquement un amour pour Kadosh Boukhou, un respect, quelque chose de. Tu dois être impressionné. Tu ressens Kadosh Boukhou dans le vin, tu l'as ressenti. Tu ressens Kadosh Boukhou, le recette d'Hachem. C'est comme je dis l'autre jour, une mère qui envoie des gâteaux à son fils qu'il a pas vu depuis 3 ans. D'accord, son fils, elle l'a envoyé à la yeshiva, c'est pendant la guerre, d'accord. Et pour protéger son fils, elle a envoyé son fils à la yeshiva à New York. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas vu. Et son fils, il est petit, il a 13 ans, sa mère lui manque, et il pleure tous les jours. Et un jour, il reçoit un colis de sa mère avec des gâteaux secs. Et il mange le gâteau. Deux solutions. Soit le fils, maintenant, pour se protéger, est devenu insensible. Ou soit, non, bien au contraire, il est très sensible. Et quand il mange le gâteau, qu'est-ce qu'il ressent? L'amour de sa mère. Il ne ressent pas le goût du gâteau, il ressent le goût de sa mère. Et quand il mange le gâteau, il s'en fout du goût. Et même ses copains disent « Dommazan, Chazvé Shalom !» Chazvé Shalom, c'est l'amour de ma mère que je suis en train de manger. Je ne peux pas donner l'amour de ma mère. Je ne peux pas. Il aime ça. Il ressent le goût. Ça doit réveiller en lui, ça réveille quelque chose de très fort. « Maman, je t'aime. » Il a même David écrit une lettre, il pleure et tout. Il pleure. Et sa mère, comme on l'a dit l'autre jour, sa mère va recevoir la lettre, elle va voir l'amour que son fils il a pour elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui envoyer encore plein de gâteaux. Tiens, prends. C'est qui donne? C'est même pas la mère qui donne. Quand tu fais la bracha, quand tu manges, que tu remercies Akadosh Baruch Hu et que tu es impressionné par l'amour d'Akadosh Baruch Hu, que tu lui fais tout un tas de louanges, un kidouche que tu veux, elle dit, mais te donne, vas-y, prends, j'aime ça, continue. Mange, même, aime-moi. C'est ça. Vous comprenez quoi? Ça, c'est la Seudat Purim. Seudat Purim. Prenez ou pas? Ouais. Bon, maintenant, on va arriver à la dernière mitzvah. La dernière mitzvah qui est essentielle. Alors, il y a une mitzvah a priori étonnante, comme on a parlé hier. C'est Amar Rava qui dit qu'un homme est obligé de boire, donc, jusqu'à hein, qu'il n'arrive plus à faire la distinction entre Arur Aman, maudire le mal qui est Aman, et la bénédiction de Mordechai. Il faut qu'il arrive à un point d'ébriété où il n'arrive plus maintenant à faire la différence entre le bien et le mal. C'est ça. C'est que dans la vie, messieurs, quand tout va bien, on remercie Kadosh Baruch Hu, je t'aime Hachem, on étudie bien, on fait des belles prières, mais quand ça va mal. Des fois, là, on perd un peu l'espoir. Hachem, même plus, ou je sais pas ce que tu veux. Ça va plus. Le Yichud d'Hachem, deuxième fondement de la Emouna, de la croyance, comme on dit, de la Emouna, de la foi. C'est quoi on a dit, Yichud d'Hachem, il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Et s'il n'y a rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas y avoir quelque chose d'indépendant qu'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est bizarre, à pourri. Ça veut dire que même le mal, il provient d'Hachem. Et ça, c'est étonnant. Le mal provient d'Hachem, quoi. Hachem, tu peux faire du mal. Hachem, c'est impossible qu'il soit mal. Hachem, t'es bien, tu peux pas faire du mal. A priori, ça contredit. Quand je vois un rachat qui fait du mal ou quand je vois quelque chose de mal dans ce monde, je dis, il n'y a pas d'Hachem là. Ça ne peut pas provenir d'Hachem. Chaz v'shalom. On a une mitzvah de Emouna, de foi, de dire que même ça, c'est Hachem. Ah bon? Mais Hachem peut pas faire du mal. Non, t'as rien compris. Toi, tu crois que c'est mal. Toi, tu crois que c'est mal. Parce que t'es petit. T'arrives pas, tu vois pas tout le film. Toi, t'as vu qu'un extrait. T'as pas vu tout le film. Tu crois que c'est mal, mais en réalité, c'est bon. C'est bon. Hein? Ah, notre cerveau, notre intelligence ne perçoit pas qu'est-ce qu'il y a de bien. De ce fait, on appelle ça une mitzvah de Emouna, un attribut de foi. La foi, c'est quoi? C'est justement, c'est au-dessus de l'intelligence. D'accord? Mon intelligence a une limite, elle ne peut pas tout comprendre. D'accord? Comprendre que le mal, il est bien, je comprends pas. D'accord? D'accord, l'intelligence, elle est un petit peu fière comme ça, elle a du mal à accepter de ne pas pouvoir tout comprendre. D'accord, donc tu as deux solutions. C'est soit dire c'est des bêtises, ou soit dire non, je fais appel à la Emouna, à la foi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne comprends pas que c'est mal, je ne comprends pas que c'est bien, j'ai l'impression que c'est mal, d'accord, j'ai du mal, mon cerveau ne le comprend pas, c'est la Emouna. Ça fait partie du deuxième principe de Emouna. D'accord. Pour Rim, on ne doit pas seulement avoir la Emouna, on doit le vivre. On doit le vivre. Mais comment le vivre? Un mec qui te dit maintenant, je comprends que l'intelligence, je comprends, c'est clair pour moi que le mal, c'est bien. C'est un fou. C'est impossible de dire ça. Impossible. Même Abraham Avinu, il a galéré. Abraham Avinu, quand tu lui as dit maintenant, va faire la shrita à ton fils, c'était pas évident pour lui. C'était dur. Vous croyez quoi? Après qu'il était heureux, c'était très dur. Bon, il comprend pas, avec le Sérel, il comprend pas D'accord ? Emouna, Amour d'Akadosh Baruch Hu, je le fais. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. D'accord ? Dire maintenant le mal, il est bien. On ne nous a pas demandé ça. On nous a demandé de persuader que, même si je ne comprends pas, d'accord ? Pourim, qu'est-ce qu'on fait ? On va utiliser un moyen qui va nous permettre de voir Akadosh Baruch Hu, même dans le mal, et de le proclamer haut et fort. On va dire Baruch Aman. Béni sois-tu Aman. Même le mal, je le bénis. Comment ? La boisson. On t'aime tellement, Akadosh Baruch Hu, tellement on t'aime, et tellement on est persuadé, tellement tu nous aimes, que même le mal, il est bien. Même le mal, il est bien. Comprenez ou pas ? On boit. Même le mal, je le bénis. Baruch Aman. Maintenant, la question, c'est encore plus perturbant, c'est cela. Ce qui est très perturbant, c'est comment on peut dire Arour Mordechai. Maudit sois-tu le juste. Ça, je comprends. Baruch Aman, je comprends. D'accord ? Le mal, mais maudire maintenant le bien. Dire que le bien, finalement, il est mal, c'est pas possible. Comment expliquer cela ? Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas d'intermédiaire. On ne veut pas d'intermédiaire. Tu aimes ta femme, tu veux parler avec ta femme. Tu ne veux pas dire maintenant à quelqu'un, tiens, va dire à ma femme, je t'aime. Dis pas ça. Quand on a un problème dans la vie, qu'est-ce qu'on fait ? On prie, on prie, on prie. On fait tout ce qu'on peut. Toi, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On va à Rav Shaya. Rav Shaya fait une bracha. Rav Shaya, des fois, il va dire, bon, on va voir le gadol. Ça va voir le gadol. D'accord ? Bourim ne veut pas de ça. On ne veut pas d'intermédiaire. On veut Hachem. On veut se tourner vers Hachem. En soi, Mordechai nous gêne. C'est une barrière. On ne veut plus de toi maintenant. On est tellement bien, tellement on t'aime. Tellement ce jour extraordinaire. Tellement cette relation d'amour, elle est tellement. Qu'on veut toi, Kadosh Baruch Hu. On ne veut pas de Mordechai. C'est une barrière. C'est lui qui nous dérange maintenant. Vous comprenez ou quoi ? Vous comprenez ? Extraordinaire, non ? Hein ? Voilà. Donc, Hachem. Que ce pourim soit un moyen d'accéder justement à la perception claire qu'Hachem nous aime, ce qui n'est pas du tout évident, mais surtout qui nous permet de nous l'aimer encore plus. Hazak Baruch.